France Culture, grand reportage, t'arraches les gueules.
Nous avons été la première coopérative à se voir attribuer un bien confisqué et à l'utiliser pour réintégrer dans la société des personnes avec un handicap mental.
La société sait se défendre, sait se défendre de manière civilisée, de manière légale, de manière démocratique. Donc, on fait participer la société à la lutte contre la mafia.
Les mafias pensent qu'elles peuvent changer la mentalité des jeunes. Mais si nous sommes informés, les choses peuvent changer. Je suis d'accord avec ça.
En février dernier, pour la première fois en France, le procureur de la République de Marseille osait déclarer publiquement « il y a une mafia en Corse ». Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Effectivement, l'île de Beauté, disent les statistiques, est la région la plus criminogène de France. 8 assassinats depuis le mois de janvier liés au crime organisé. Marseille, de son côté, a connu l'année passée, en 2023, son année la plus noire, le narco-banditisme approché près d'une cinquantaine de personnes. Face à ce sang versé, la société civile ne veut plus rester les bras croisés, à l'image du peuple italien qui, après la mort des juges Falcone et Borsellino, s'est dressé de plus en plus vivement contre la mafia. En France aussi, les proches de victimes veulent faire avancer la loi, prendre modèle en quelque sorte sur notre voisin italien et son arsenal anti-mafia. Ainsi, l'association Crime Halt, qui s'est donnée pour mission de lutter contre l'implantation de la pieuvre en France et en Europe, a organisé en mars un séjour d'études près de Naples, précisément à Casal di Principe, qui fut le fief du clan des Casalesi, l'une des grandes branches de la Camorra, la mafia italienne. Cette ville de 22 000 habitants est aujourd'hui le symbole des terres libérées du joug mafieux grâce à la mobilisation des habitants. L'engagement citoyen contre la criminalité organisée des Français dans les pas de l'antimafia italienne, c'est un grand reportage signé Anne Fauquemberg. Pour écouter et commenter ce reportage, nous sommes à distance à Lyon avec Charlotte Moge, maîtresse de conférences en études italiennes à l'Université de Lyon. Donc bonjour madame.
Bonjour.
Et puis nous sommes ici en studio avec Aurélien Martini. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Vous êtes aussi vice-procureur du tribunal de grande instance de Melun.
C'est ça.
Et nous sommes en studio toujours avec Anne Fauquemberg, bien sûr. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Anne, votre reportage commence à Casal di Principe, donc à la Casa Don Diana. Alors c'est un lieu emblématique de la résistance anti-mafia dans cette ville de Casal di Principe.
Oui, à l'entrée de ce centre culturel, il est d'ailleurs écrit « Museo della Resistenza ». C'est une villa confisquée à un tueur et qui héberge aujourd'hui un collectif d'acteurs anti-mafia, le Comitato Don Diana, partenaire de Crime Halt dans ce voyage et représentatif de la mobilisation citoyenne italienne contre la mafia. Vous allez entendre tout de suite un échange entre Laetitia Linon, cofondatrice de l'association des victimes d'assassinats à Marseille, l'une des 4 associations françaises emmenées par Crime Halt en Italie, et Mauro Baldacchino, l'un des membres fondateurs du Comitato Don Diana.
Nous écoutons donc tout de suite cet échange à la Casa Don Diana.
Bonjour, moi je m'appelle Laetitia, je suis un des membres du collectif des familles de victimes à Marseille. Donc nous on est un collectif qui s'est réuni, on est des mamans, des tantes, des grand-mères, des cousines, des nièces. On a toutes perdu quelqu'un qui a été assassiné, ça peut être un enfant, un frère, un fils. On sait qu'on en a encore pour des années de boulot, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. D'année en année, le nombre de victimes augmente. L'année dernière, il y a eu près de 50 morts à Marseille et 120 blessés graves par arme à feu. Et c'est vrai que le système italien, mais du coup, pour la petite Marseillaise que je suis, fait rêver. Parce que, ben, comme il l'expliquait tout à l'heure, le monsieur, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on vit à Marseille, c'est ce qu'ils ont vécu il y a 40 ans, 50 ans en arrière. Donc moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi un pays comme la France voit qu'un pays comme l'Italie, qui a eu les mêmes problématiques, a, entre guillemets, pas enrayé totalement la mafia, mais fait baisser déjà les chiffres au niveau des assassinats. Pourquoi on ne prend pas exemple? Donc j'essaye d'emmagasiner un maximum d'informations pour les relayer. Comme n'importe quel citoyen, la première des choses, c'est être en sécurité chez soi. Et à l'heure d'aujourd'hui, en tant que Française, je ne le suis pas. Donc je veux leur faire entendre et j'espère prendre un maximum d'informations ici pour avec notre petite voix, essayer de leur faire comprendre certaines choses. Quoi.
Je voudrais répondre quelques mots. Souvent, il est beaucoup plus facile de nier le problème plutôt que de l'affronter. Cela a été le cas en Italie il y a des décennies. Nous avons appris des choses, nous avons mis en place un système et vous pouvez vous inspirer de ce système et l'emporter chez vous. En Italie, nous avons un code antimafia qui est un livre assez épais. Qui protège évidemment les familles des victimes, mais quand on dit victimes, il faut aussi penser aux entrepreneurs qui ont vu mourir leurs entreprises à cause des mafias. Et ce code anti-mafia les protège aussi. L'Europe se fonde sur un marché et ne pas vouloir voir que les mafias minent la base de ce marché légal est un danger pour l'Europe. Ne cédez pas au sentiment de honte et de culpabilité, ce n'est pas le cas. Il faut transformer votre rage, votre colère, votre tristesse en force pour aider les autres. Je veux vous remercier pour votre présence et je vous propose de bâtir un pont entre nos deux associations.
Una collaborazione tra di noi per sostenerci a vicenda.
Oine fabri este vie, nu mă faci pantăca. Ca purareța vene, ca marăstu amăna.
En Italie, la loi Rognoni-Latore de 1982 a introduit deux dispositions phares en matière de lutte anti-mafia. Le délit d'association mafieuse ainsi que la saisie et la confiscation du patrimoine des personnes appartenant à un réseau mafieux. Cette législation a été complétée en 1996 par la loi dite 109, qui autorise la réutilisation institutionnelle et sociale des biens confisqués. Aujourd'hui, près de 18 000 biens sont mis à disposition des institutions et plus de 1000 sont gérés directement par des citoyens dans le cadre de l'économie sociale et solidaire.
Donc on va voir la réutilisation institutionnelle. C'est ce que nous avons demandé en amendement au Sénat. Donc je ne sais pas s'ils vont nous l'accepter. Et on va voir des exemples d'usage social, qu'on a déjà vu hier, mais aujourd'hui, on va voir d'autres coopératives. Voilà, à tout de suite.
Je suis Pasquale Corvino. Je suis le président de la coopérative Agropoli, qui gère le restaurant NCO, la Nuova Cucina Organizzata.
Ce lieu, ce restaurant, avant, il appartenait aux mafieux.
Cette maison, effectivement, appartenait à un tueur à gages qui est ensuite devenu le trésorier de l'association mafieuse. Mais il n'a jamais habité dans cette maison. Il était en train de la faire construire quand il a été arrêté. Les travaux n'étaient même pas terminés. Effectivement, il y a bien un jeu de mots. NCO, à la base, sur ce territoire, c'était la Nuova Camorra Organizzata. Et c'était un détachement de la grande famille mafieuse de la région de Naples qui a été créé à la fin des années 70 par Raffaele Cutolo. Il s'opposait à la Nuova Familia, donc une autre branche mafieuse. Il y a eu des guerres entre les deux groupes, ça a été très sanglant, et la Nuova Camorra Organizzata a fait vraiment beaucoup de mal à ce territoire. Nous avons beaucoup aimé ce jeu de mots car, à partir de quelque chose de très négatif, de meurtrier, nous avons créé quelque chose de beau, d'innovant et de positif pour donner de la valeur au territoire.
C'est un projet total, à savoir que même les produits sont cultivés, viennent des terres libérées de la mafia.
Nous avons été la première coopérative à se voir attribuer un bien confisqué et à l'utiliser pour réintégrer dans la société des personnes avec un handicap mental. Au fur et à mesure, d'autres coopératives sont nées autour de nous et elles ont cultivé des terrains confisqués à la criminalité organisée. Ces coopératives ont commencé à produire des légumes, mais aussi du vin. Elles se sont inspirées de ce qu'on faisait et elles ont fait aussi travailler des personnes avec un désavantage social. Nous avons petit à petit créé une économie sociale alternative à l'économie criminelle.
Jean Toussaint Plaisantzouti, je suis membre de la collégiale du collectif anti-mafia Massimo Susini, collectif qui a été créé le 5 octobre 2019 à la suite de l'assassinat de Massimo Susini, qui avait 36 ans, le 12 septembre 2019 à Cargèse, assassiné par un groupe de jeunes mafieux originaires de la région, voire du village de Massimo à Cargèse, qui sont reliés avec d'autres bandes mafieuses de la région ajaxienne. Donc Massimo était déjà engagé lui-même dans une action anti-criminelle en quelque sorte, puisqu'il s'était opposé à cette bande de jeunes mafieux, de jeunes crapules je dirais, qui avaient la prétention de grimper les échelons de la criminalité. Et disons qu'avec le collectif, on continue son action et on mène une action maintenant, on va dire, pensée, organisée, qui vise à faire évoluer la loi. Donc nous pensons que la lutte, elle ne doit pas être simplement répressive, mais qu'elle doit être culturelle, qu'elle doit être civilisationnelle, et que donc la confiscation obligatoire, ça doit être systématique, pour pas que le crime paie, ça c'est pas possible, mais que ça profite à la société et qu'on le dise, comme ils font ici, donc un bien confisqué à la Camorra, un bien confisqué à Cosa Nostra, à la mafia en Sicile, et de dire, mais la société, ça se défend de manière civilisée, de manière légale, de manière démocratique, donc on fait participer la société à la lutte contre la mafia.
Qu'est-ce qu'on attend justement de la future loi sur la confiscation des biens en France ?
Alors, déjà, jusqu'à maintenant, elle n'était pas obligatoire. Donc, c'était compliqué, les juges oubliaient. Non, vous savez, les mafieux, ils vont en prison, ça fait partie des risques du métier. Ils peuvent commanditer des assassinats, voire continuer leurs affaires tout en étant en prison. Il n'y a pas de difficulté, ils le savent. Par contre, lorsqu'ils sortent et qu'ils sont bien capitalisés, qu'ils sortent avec un patrimoine important, il est évident qu'ils se disent que le jeu en vaut la chandelle. Et donc, ça, il faut l'empêcher. Donc, la confiscation systématique et obligatoire va les dépouiller des fruits de leurs crimes. Et ça, ils craignent beaucoup. Et en même temps, c'est aussi un message qui est lancé aux jeunes qui voudraient se lancer dans ce métier, en leur disant que, bon, évidemment, ils risquent leur vie, ils risquent leur liberté, mais qu'au final, ils prennent tous ces risques pour rien, puisqu'on va tout leur prendre.
Alors, vous dites la criminalité organisée, ça augmente. À quoi vous le voyez en Corse, par exemple ?
Alors, nous le voyons dans un premier temps par le nombre d'homicides qui ont eu lieu depuis les années 90 à aujourd'hui, plus de 500. Les groupes mafieux, pour assurer leur hégémonie, se débarrassent de groupes, on va dire, plus faibles pour devenir plus forts. Ça, c'est le premier point. Comme autre signe, nous savons qu'il y a des marchés publics qui sont maintenant captifs. Nous avons des professionnels de la lutte contre le crime, notamment la GIRS de Marseille, qui a produit un rapport qui parle de mafia corso-marseillaise et qui demande des outils supplémentaires, pour notamment un pôle anti-mafia.
La GIRS ?
C'est la GIRS, c'est la juridiction interrégionale spécialisée. Donc dans le crime organisé, donc vous avez beaucoup d'affaires corses maintenant qui sont traitées à Marseille pour ça. Vous avez un taux d'acquittement supérieur à la moyenne nationale en Corse dans les assassinats et qui passent donc aux assises en Corse. Ce sont des signes qui ne trompent pas sur l'emprise mafieuse en Corse. Vous avez des élus qui ont peur et qui le disent. Donc il s'agit maintenant de permettre à la société de s'outiller efficacement pour lutter contre.
Plusieurs ateliers ont été organisés lors de ce voyage d'études pour comprendre les dispositifs italiens anti-mafia. L'un d'entre eux s'intitulait « Sortir de la Camorra, c'est possible ». Nous sommes partis dans la campagne, près de Castelvolturno, à la rencontre d'un ancien détenu. Il est aujourd'hui cuisinier dans un bien confisqué, transformé en centre agricole et auberge de jeunesse.
Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Gaetano. Je n'aime pas le répéter, mais je viens de Naples, des quartiers difficiles de la Scampia et de Secondigliano. Je suis né en 1979. Mon père a travaillé toute sa vie légalement. Il a essayé de m'éloigner du crime, de l'argent facile. Malheureusement, il n'a pas réussi. Quand j'étais jeune, la Scampia et Secondigliano étaient les plus gros points de deal en Europe. Quand j'avais 11 ans, souvent, je descendais de chez moi pour jouer au foot avec mes copains. Parfois, il y avait ce gars, Claudio, qui passait avec sa moto et qui prenait un gamin par jour pour aller faire un tour. C'est très moche et j'ai éprouvé la fascination du mal. Je comparais mon père, qui n'était personne dans le quartier, avec ce Claudio, qui était une vraie star. Il m'emmenait sur sa moto, tout le monde lui disait bonjour. Il avait toujours des choses pour les enfants, que ce soit des chips, des vélos. C'est lui qui m'a acheté mes premières Nike. J'ai décidé que je ne voulais pas devenir comme mon père. Je voulais devenir une star, comme Claudio. À 17 ans, je quitte la maison de mes parents, je lâche tous mes liens avec une vie honnête et je rentre complètement dans le clan. À partir de ce moment-là, moi qui n'avais jamais eu la possibilité d'avoir des petits luxes dans ma vie, je collectionne des Rolex, je commence à m'acheter un bateau, plusieurs motos, des voitures. Je commence à rentrer dans la vie du clan et je vois beaucoup trop de choses. Quand je me rends compte, après des années, du monde pourri que le clan représente, je ne peux plus ressortir. Au moment où ils me disent d'utiliser une arme, pour moi ce n'était plus possible. Je prends tout mon argent, je trahis le clan et je m'échappe. Je pars de la Scampia et je viens à Castelvolturno. J'avais assez d'argent pour me payer la protection des clans que j'allais rencontrer et qui n'étaient pas les mêmes qu'à Naples. En 2004, j'avais sur moi 300 000 euros. Je décide d'ouvrir un nouveau point de deal. J'achète la drogue chez les Espagnols et j'ouvre donc mon propre business. Mais une grosse vague d'arrestations se déchaîne sur le territoire, ici et dans mon ancien quartier de Naples. Je suis interpellé pour beaucoup de choses, pour associations mafieuses, pour séquestration de personnes. Heureusement pour moi, je n'avais pas participé aux homicides perpétrés par mes anciens amis du quartier de la Scampia. Donc j'avais une situation meilleure. Ceux qui ont grandi avec moi sont encore en prison. J'ai été placé dans une prison de haute sécurité et je n'avais aucun moyen pour reprendre ma vie en main, puisqu'il y avait une accusation d'association mafieuse sur ma tête. J'étais soumis à la loi de la mafia à l'intérieur de la prison. Les boss disaient « Toi, tu fais partie de cette association-là, donc tu n'as pas le droit de demander de l'aide et tu ne peux pas dire que tu es toxicomane. » Mais je venais de retrouver mon père qui était venu me voir au parloir. Je me sentais très mal et je m'en foutais de toutes ces lois à la con. J'ai appelé l'assistance sociale, j'ai dit que j'étais toxicomane, ce qui était le cas à l'époque, et j'ai fréquenté des cours, puis j'ai obtenu un diplôme, j'ai commencé à travailler à l'intérieur de la prison et je m'en suis sorti petit à petit. Mais pendant ces 9 ans de prison, on a essayé plusieurs fois de me tuer et j'ai été transféré à plusieurs reprises.
Fabrice Risoli, je suis docteur en sciences politiques sur les mafias italiennes. J'ai eu ce diplôme à la Sorbonne. J'enseigne à Sciences Po Paris et à HEIP, l'école de relations internationales.
Aujourd'hui, on a fait un atelier sur sortir de la Camorra, c'est possible. On a rencontré Gaetano, qui est un homme de 45 ans, qui aujourd'hui travaille dans une coopérative. Et on peut sortir de la Camorra, mais pour d'autres clans, dans d'autres régions, c'est plus compliqué.
Oui, alors, la Camorra, comme il l'a décrite, fait que... À partir d'un certain âge, on peut même proposer à ces personnes de sortir avec un pécule. Donc lui, il a voulu prendre cette opportunité. Très clairement, dans la mafia calabraise, où il s'agit d'une mafia faite de sang, avec des liens biologiques, vous ne sortez pas. Vous êtes fils de mafieux, vous êtes frère de mafieux, vous avez épousé une femme dont le père est un mafieux et vous y rentrez pour la vie. Donc il y a quand même une grande différence entre la mafia calabraise et certaines zones dans la Camorra.
C'est pour ça que dans le système italien, on peut se repentir, on est arrêté et on dit qu'on dit stop en fait et on devient collaborateur de justice avec une protection aussi qui va avec, ce qui n'existe pas en France.
Alors très clairement, depuis 1991, il y a une loi extrêmement intéressante en Italie de collaboration avec la justice. Lorsque vous sentez que vous allez mourir, qu'on va vous tuer ou que vous allez avoir la prison à vie, vous pouvez décider de collaborer avec la justice, c'est-à-dire de restaurer l'état de droit. Et on vous propose une protection, mais en échange, vous faites votre peine de prison. En échange, vous devez témoigner dans tous les procès. Et ça, c'est capital. Ça permet de comprendre le phénomène mafieux. Évidemment, on ne demande pas aux gens, en réalité, de se repentir. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de changer de mentalité. On leur demande d'arrêter leurs infractions criminelles et devenir des citoyens. Ça, c'est une vraie différence. Ce qui se passe en Italie, c'est que les personnes sortent et sont protégées même lorsqu'elles ont du sang sur les mains, même lorsqu'elles ont tué. En France, une personne qui a du sang sur les mains ou qui a commis un assassinat et même une association de malfaiteurs ne peut pas être protégée. Alors là, on comprend bien que depuis une dizaine d'années, le système ne fonctionne pas et que si on veut lutter efficacement contre les narcomicides à Marseille, les crimes de professionnels en Corse. Il nous faut des personnes qui témoignent et qui disent « j'ai tué, on m'a demandé de tuer ». Ces personnes sont condamnées à la prison, elles ont des remises de peine, elles ont des aménagements de peine, mais on peut les protéger, elles et leurs familles. Si on ne fait pas ça en France, on ne pourra pas lutter efficacement contre le crime organisé.
Et c'est une loi qui est en préparation, hein ?
Alors, c'est aujourd'hui dans les tuyaux, dans le ministère de la Justice. Il y a même un député corse qui serait prêt à soutenir... ce changement, il est demandé par les deux derniers présidents de commissions de coopérateurs de justice ou de repentis. Donc on espère fortement qu'on puisse bientôt protéger des personnes qui ont du sang sur les mains de manière à résoudre des affaires complexes de crimes organisés et de réduire l'impunité. Car encore une fois, l'idée c'est bien de faire condamner des gens qui ont tué en protégeant des gens qui ont tué.
À Casal di Principe, un prêtre n'a jamais voulu se taire. Giuseppe Diana, Don Pepe, comme il est surnommé là-bas, a fait de son église un lieu de résistance anti-mafia. En 1991, il a même distribué dans toutes les paroisses de la région une lettre intitulée « Pour l'amour de mon peuple », un document considéré comme un manifeste contre la mafia. Le 19 mars 1994, à 7h20, alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe, Don Pepe est assassiné dans la sacristie de son église. Un choc pour l'Italie. Un an plus tard, le réseau national citoyen anti-mafia Libera est créé et le Comitato Don Diana à Casal di Principe en fait partie. L'association organise tous les ans un hommage à Don Pepe.
Je suis un volontaire de la Croix-Rouge italienne. Je m'appelle Giuseppe Circa, ok. Et moi, j'ai 20 ans. J'ai vécu ici à Casal di Principe. Je suis né ici. Mon père a été menacé. Mon père a donné sa boutique aux mafieux. Sinon, il allait le tuer. Là, dès 1994, il y a eu un boom de conscience. Un véritable... passage de mentalité.
94, c'est la mort du prêtre Don Pepe. C'est un personnage incontournable ici à Casal di Principe. Tout le monde le connaît.
Il est toujours présent ici. dans les pensées, dans les reportages, si on va chercher sur le web Casal di Principe, il n'y a que Pepe Diana et les autres personnages tués de 1994 et avant même 1960-70, parce que cette terre a été blessée par la criminalité organisée.
Donc aujourd'hui, c'est la messe en hommage à Don Pepe. C'est important, tout le monde vient ?
Oui, absolument. Il y a la maire, le président de la région Campanie et les autres personnalités publiques.
Alors, je suis Renato Natale, le maire de Casal di Principe.
Alors, on est, c'est les 30 ans donc, de la mort de ce prêtre. Comment c'était la situation avant et aujourd'hui, c'est quoi la différence ?
Pendant les années 80 et 90, la ville était un vrai champ de bataille. Il y a eu plus de 700 morts dans nos rues et beaucoup étaient des victimes innocentes. La mafia réglementait la vie de tous les citoyens. Si une jeune fille quittait son amoureux, la mafia était impliquée d'une manière ou d'une autre. Personne n'échappait à ce contrôle. Le clan des Casalesi, comme ils ont été appelés à tort, puisque les Casalesi sont en fait des habitants de cette ville, étaient très puissants. Ses membres ont infiltré plusieurs fois la mairie, les institutions locales, et ils faisaient beaucoup d'argent dans la production du béton et le trafic des déchets. La mort de Don Pepe Diana a tout changé pour cette ville, mais aussi pour l'Italie entière. L'État a été obligé de faire plus attention. L'année dernière, en 2023, nous avons reçu Sergio Mattarella, le président de la République, qui était ici pour commémorer la mémoire de Don Pepe. Il nous a encouragés avec les mots du juge Falcone, qui a été tué par la mafia dans les années 90. La mafia est un phénomène humain, et en tant que tel, elle a un début et elle aura une fin.
Moi, je suis Assina Sadani. Moi, j'ai 53 ans, je suis née à Marseille. Je suis la tante de Sarah, qui a été assassinée en octobre 2020, qui s'est pris une rafale de Kalachnikov.
Alors là, on est dans le cortège qui fait suite à la messe pour les 30 ans de la mort de Don Pepe. C'est un événement ici pour la ville de Casal di Principe. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce cortège et de partager finalement ce moment avec les Italiens ?
C'est une belle chose, c'est quand même une personne qui a été tuée, assassinée, hein, pas tuée, assassinée dans son église. Il a beaucoup fait pour cette petite ville, il a été présent, il a créé des choses. Donc c'est magnifique. Et puis quand on voit ces applaudissements, les gens sont émus, on les voit à leurs fenêtres, on voit applaudir, on est dans un cortège où les gens se mélangent, ils ne nous connaissent pas, ils viennent discuter avec nous, on essaie de se faire comprendre comme on peut, et je pense que c'est une belle chose. Il y a un monsieur qui nous a pris, moi et ma sœur, dans les bras, qui nous a embrassés sur la tête, qui nous a montré qu'il était présent, il nous a dit « on est présent, on est avec vous, on est dans votre combat ».
Ça, c'est des choses, des marques d'affection, de soutien que vous n'avez pas eu en France, ou pas beaucoup ?
Non, du tout, du tout. Quand ma nièce est décédée, on n'a eu personne, aucun soutien psychologique. Alors qu'on a une destruction, quand on perd une personne, c'est toute une famille qui est détruite.
Sarah, elle avait quel âge ?
Elle avait 19 ans, elle allait passer son bac. Elle avait une joie de vivre magnifique. Elle voulait être comptable. Elle était dans ses études, elle me disait « oui, mais si je réussis mon bac, on partira en vacances, on partira en voyage ». C'était une fille naïve, elle avait la joie de vivre. Et c'est dur de savoir qu'on ne la reverra plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle de nos victimes, il faut qu'on puisse ne pas les oublier. Parce qu'on va vite dans l'oubli. Alors que là, quand on en parle, quand on montre des photos, quand on dit Sarah, on se rappellera de Sarah. Pour les générations aussi à venir. Et j'espère que les générations à venir vont prendre le relais et se battre comme on fait aujourd'hui dans le collectif des familles.
Mamma, 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 e dammi 100 lire, che all'America voglio andare. 100 lire io te le done, ma l'America no, no, no.
Alors, je ne l'ai pas encore donné parce que je ne connais pas, mais je vais le préciser sur le groupe WhatsApp une fois qu'on en aura parlé. Vas-y Fabrice, je te laisse pour la marche.
Là, on part au Circo Massimo. Donc, c'est une grande esplanade. Si on se perd, on peut se retrouver. Vous regardez les drapeaux, tout ça et tout. Là où il y a les gens de Libera Campania. Donc, Libera, l'association Libera, Campania, la région Campanie. D'accord ? Et puis sinon, on s'appelle.
La fede granata.
Io sono Benedetta, ho 16 anni.
Je m'appelle Benedetta, j'ai 16 ans. Je suis lycéenne et je suis venue à Rome en classe verte. C'est super de sensibiliser les élèves sur la mafia. Je me sens concernée et je suis très contente d'être ici. C'est important, surtout pour les lycées qui viennent du sud de l'Italie. Les mafias pensent qu'elles peuvent changer la mentalité des jeunes. Mais si nous sommes informés, les choses peuvent changer. Je suis d'accord avec ça. Je voudrais rajouter quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Cela concerne la situation en Libye. Les mafias gèrent les trafics des êtres humains, ces migrants qui traversent la mer pour venir en Italie. Nous sommes indifférents à tout ça. Il faut s'informer.
Gianluca Ciminiello,
Carmine Cannillo, Francesco Ligorio, Carlo Cannavacciuolo.
Le 21 mars est le jour du printemps et en Italie également celui des victimes innocentes des mafias. Une marche est organisée tous les ans dans une ville différente. Cette année, elle avait lieu à Rome, la capitale. À chaque fois, on y prononce le nom des plus de 1080 victimes innocentes assassinées par les mafias. Des victimes recensées par le réseau d'associations Libera. En France, on commence à peine à parler de victimes collatérales de la criminalité organisée. Sokaina, une jeune femme de 24 ans, a été tuée en septembre dernier à Marseille. Une balle a traversé la cloison de sa chambre alors qu'elle révisait ses cours. Sa tante, Asna Arabi, était présente en Italie.
C'est incroyable de voir toute cette foule. Il y a des milliers de personnes. Et lors de notre séjour, on sent que le combat de lutte anti-mafia est un combat qui tient à cœur et qui rend fiers les Italiens. Ils portent le nom de leurs victimes sur le corps. Les enfants, les parents, les grands-parents, ils sont tous réunis pour la même cause, le combat anti-mafia. Je pense à Sokaina, je pense à sa maman. Je me dis que si elle était là, certes, elle serait en pleurs, sans doute, mais elle se sentirait reconnue dans sa douleur. Et ça, c'est incroyable parce qu'on a besoin de ça.
Je me tourne vers vous, Manette Battistelli, du collectif antimafia Massimo Susini. Les associations italiennes ont créé ce concept de victime innocente pour lever le combat antimafia. Vous en avez débattu toute la semaine dans le groupe entre vous. Et c'est pas simple. Les Marseillaises estiment qu'il serait difficile d'exclure de jeunes victimes qui trempaient à petit niveau dans le narcotrafic et qui étaient prises dans un système. Tandis que pour vous, les Corses, on ne peut pas juger les morts. Vous en êtes où aujourd'hui de ce débat ?
Je pense que la France n'est pas prête à désigner des victimes innocentes. En tout cas, en Corse, on n'est pas prêt. C'est vraiment un sujet qu'il faut approfondir. Il faut que la population s'imprègne vraiment de ça, parce que bon, c'est délicat encore. Je pense que la lutte anti-mafia est encore jeune en France. Bien sûr que la loi italienne nous inspire beaucoup, hein, à tous les niveaux. Il faut savoir que dans les textes de loi italiens, le mot innocent n'est pas spécifié. C'est les associations qui les désignent. Et il faut qu'en France, on s'inspire de ça pour pouvoir créer un modèle, peut-être pas identique, mais en tout cas un modèle qui soit spécifique à la France.
Il... Fabrice Risoli, c'est la première fois que vous emmenez des proches de victimes de la criminalité organisée pour faire un Erasmus+. Vous en avez déjà fait d'autres avec plutôt des chercheurs, des journalistes, des intellectuels. Pourquoi ce choix d'emmener des proches de victimes dans ce type de programme ?
Alors, disons qu'on emmène des victimes déjà depuis notre troisième Erasmus à Palerme, à Milan. Mais que là, sur un Erasmus à 27 personnes, nous avions 9 parents de victimes, plus un maire qui est menacé, en Corse, à Chianturi, dans la ville de Chianturi. Ce qui change avec les victimes, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, on sent qu'on sort du débat d'experts et qu'on permet à des personnes qui sont touchées directement sur le territoire, Marseille, Corse par exemple, de profiter des enseignements des Erasmus+, des bonnes pratiques, et de pouvoir les restituer sur leur territoire. Alors, par exemple, le collectif Maxime Susini, qui s'est constitué autour de la défense de la mémoire de Maxime Susini, tué le 12 septembre 2019 en Corse, eh bien, depuis qu'ils viennent avec nous, depuis 3 Erasmus, ils sont totalement autonomes pour rédiger des amendements et faire changer la loi, et c'est grâce à eux, et donc Rimal, qu'on a fait voter la confiscation obligatoire en France. Donc, c'est la preuve que ça a infusé dans les Erasmus, ce qui se passait en Italie, qu'il fallait absolument changer la loi, et on a obtenu ça. Sur Marseille, nous avons déjà emmené la maman de Ryan, Nora, en 2022. Elle venait de perdre son petit depuis 8 mois. Elle était vraiment plus réservée. Aujourd'hui, on a des mamans très impliquées qui sont dans les collectifs, qui font déjà plein de choses sur Marseille, des marches qui interpellent leurs députés et tout. Mais elles viennent là apprendre de bonnes pratiques qu'elles pourront défendre auprès des politiques, comme avoir des biens confisqués, par exemple. Je veux que le prochain bien confisqué à Marseille bénéficie au collectif de familles de victimes. Je veux que les victimes soient dans un bien qu'on a confisqué à un trafiquant de drogue. Ça fait sens, ça fait réparation sur le territoire. Erasmus, ça sert à ça. En plus, deux choses. Les Erasmus avec des victimes, ça sert, un, à ce que ça soit beaucoup plus riche entre participants. C'est-à-dire qu'entre participants, on s'apprend beaucoup plus de choses depuis qu'on est entre victimes et experts, militants, journalistes. C'est plus riche, on comprend mieux ce qui se passe sur le territoire. C'est plus intense, c'est plus humain, c'est plus incarné. Et enfin, c'est mieux pour nos partenaires italiens. Parce que jusqu'ici, on venait apprendre de nos Italiens presque la bouche ouverte ce qu'ils font. Bon, on arrivait quand même à interagir. Mais là, quand ils écoutent les victimes françaises qui témoignent sur ce qui leur arrive, que leurs enfants sont morts, assassinés, qu'il y a un déni de justice, qu'il n'y a rien sur les victimes, etc. Alors les Italiens apprennent beaucoup de nous. Et ce qui s'est passé, ce qui a été très fort, par exemple, lundi dernier, c'est que des victimes françaises ont écouté des victimes italiennes, des victimes italiennes ont écouté des victimes françaises. À la fin, tout le monde a pleuré, tout le monde s'est embrassé. Et je n'avais pas anticipé que ça soit à ce point. Nous avions pensé quand même que ça le serait, mais à ce point, ça montre que c'est rudement efficace, y compris pour le partenaire italien.
L'engagement citoyen contre la criminalité organisée des Français dans les pas de l'antimafia italienne. C'est un reportage d'Anne Fauquemberg réalisé par Sam Bacchiast. Et nous retrouvons ici en studio pour commenter ce magazine Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, vice-procureur aussi au tribunal de grande instance de Melun. Et nous sommes toujours à distance aussi avec Charlotte Moge, maîtresse de conférence en études italiennes à l'université de Lyon. Alors une première question peut-être un peu naïve pour tous les deux, peut-être pour vous, Monsieur Martini, pour commencer. Est-ce qu'on peut parler de mafia en France ? Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la mafia italienne, par exemple la mafia napolitaine, et ce que nous connaissons ici du crime organisé ?
Alors c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que la définition de la mafia, elle répond à plusieurs critères, cette définition. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que mes collègues qui sont aux prises avec la criminalité organisée, que ce soit à Marseille ou en Corse, pour parler d'eux, eux parlent d'une mafia. C'est-à-dire qu'ils parlent aujourd'hui non plus de criminalité organisée, mais ils pensent qu'on a franchi une étape et ils parlent de réseaux mafieux et de mafia corso-marseillaise. Donc on est bien sur une mafia qui n'est sans doute pas la même, ou en tous les cas, on ne peut pas calquer le modèle italien sur la France. Mais en tout cas, on a une criminalité organisée qui a pris une emprise, qui pénètre la société, qui pénètre l'économie réelle, qui est liée aussi par des liens de familiaux, mais pas seulement. Donc on est véritablement aujourd'hui sur une mafia. Il ne faut pas avoir peur de le dire et ça a aussi un côté symbolique que d'en parler, au-delà de la définition strictement juridique et légale. C'est un côté symbolique parce que ça force aussi à des réactions des pouvoirs publics.
Oui, qui eux-mêmes ont employé le mot. Gérald Darmanin a parlé aussi d'une mafia.
Absolument. Et c'est je pense que le déclencheur a été mes collègues marseillais. Et aujourd'hui, cette notion est utilisée et reprise.
Charlotte Moche, votre point de vue sur la situation, vous vous êtes spécialiste de l'Italie. Est-ce que vous parleriez d'une mafia en France ?
Je pense qu'effectivement, tout est affaire de définition et que c'est un petit peu... Moi, avec ma définition italienne, on va dire, c'est un petit peu... Je connais pas assez la situation française pour me prononcer clairement là-dessus. Ce qu'on remarque, en revanche, c'est des réseaux mafieux, des pratiques mafieuses, des dérives mafieuses, avec des tentatives de conditionnement de la politique, en tout cas en Corse, et une tentative de pénétration de l'économie légale qui est caractéristique des mafias. Maintenant, en Italie, ce qui caractérise une mafia, c'est que l'organisation survit à ses membres. Donc il y a, au-delà des liens familiaux, il y a une pérennité. C'est pas pour rien que les mafias italiennes sont, même pour certaines, plus anciennes que l'État italien lui-même. Donc c'est vraiment que l'organisation perdure malgré les arrestations, les assassinats.
Les organisations mafieuses françaises sont beaucoup plus récentes, vous diriez, Monsieur Martini ?
Oui, c'est plus récent et sans doute plus disparate. Et effectivement, la pérennité, c'est un des critères de définition de la mafia. Et c'est un critère qui est plus difficile à caractériser en France. Mais du point de vue de la dérive, des pratiques, effectivement, on est sur le même modèle.
Moi, j'ai lu les années 80 à peu près pour la naissance de la criminalité organisée qui semblerait mafieuse. Qu'on peut dire ça ou pas du tout ?
Oui, je crois qu'on peut le dater à peu près de cette époque-là avec l'émergence de groupes criminels qui vont acquérir des moyens financiers, notamment, très importants. Alors, on n'est pas au niveau, mais on pourrait y arriver, de concurrencer l'État sur certaines actions, mais on pourrait y arriver. Ça a été le cas de l'Italie, c'est le cas des pays sud-américains, par exemple. Et c'est toujours un moment intéressant à regarder, parce que ces moments de bascule sont des moments où la lutte contre la mafia passe à une vitesse supérieure.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Et justement, Aurélien Martini, votre syndicat vient de publier un communiqué pour demander de repenser le cadre de lutte contre la criminalité organisée, avec une demande, on en a parlé dans le reportage, sur le statut du repenti.
Oui, absolument. À la suite des auditions de nos collègues marseillais devant le Sénat, où ils ont dit que la lutte contre le narco-banditisme était en voie d'être perdue, nous avons voulu engager un débat, et notre titre, c'était « Repenser la lutte contre la criminalité organisée ». Parce que, pour bien dire les choses, il y a une menace démocratique très forte. Une menace qui va toucher tous les aspects, qui peut toucher tous les aspects de notre vie, à commencer par les élections, avec une emprise de certains réseaux sur les élections, la corruption de fonctionnaires, peut-être un jour verra-t-on de la corruption de magistrats. Donc tout ça est très grave et atteint le cœur de notre vie démocratique. Et donc nous faisons des propositions, et au titre de ces propositions, vous avez raison, ce que nous avons envoyé plusieurs propositions, il y a le statut de repenti qui ne fonctionne pas en France, qui ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que sans doute y a-t-il un voile moral, on a jeté un voile moral sur cette question, alors qu'il faut regarder cette question à l'aune de l'efficacité de la justice. Oui, quand on a affaire à des repentis, on a affaire à des criminels qui ont donc commis des infractions, parmi les plus graves, parce que sinon on ne serait pas sur le terrain de la criminalité organisée. Mais si on n'a pas recours à eux pour démanteler les réseaux, alors on est assez inefficace.
Donc, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le statut français ?
Pour vous dire les choses très clairement et sans rentrer trop dans les détails, je crois que on a mis trop de morale. C'est-à-dire qu'on a dit certains ne peuvent pas rentrer dans le dispositif de protection parce que effectivement ils ont commis des infractions trop graves. On a parlé de crimes de sang dans votre reportage. Encore une fois, il faut se dire quel est l'objectif, quels sont les moyens pour l'atteindre, et est-ce qu'on est prêt à mettre ces moyens pour atteindre cet objectif. Si l'objectif, c'est de lutter efficacement contre la mafia, alors il faut avoir recours à des gens qui se sont salis les mains.
Bien sûr, et ces gens-là, il faut les protéger aussi, c'est ce que disait l'interlocuteur de Anne dans le reportage. Madame Moche, est-ce que la législation italienne, qui est prise un peu comme modèle par les associations françaises, est-ce qu'elle est vraiment efficace contre la mafia ? Parce que vous disiez la mafia est très ancienne en Italie, elle remonte sans doute au 19e. Est-ce que malgré tout, la législation actuelle fonctionne ?
Oui, bien sûr, la législation actuelle fonctionne, mais elle fait surtout figure de modèle parce que c'est vraiment un arsenal qui est très complet. Tout à l'heure dans le reportage, on entendait quelqu'un qui disait que ça avait même été regroupé, toutes les mesures ont été regroupées dans un code qui s'appelle le code anti-mafia. Et depuis 1982, on va dire, les lois se sont accumulées. Je voulais juste rajouter quelque chose concernant les repentis.
Bien sûr.
Faut pas croire que le débat soit si simple en Italie non plus. Par exemple, je pense à la libération de Giovanni Brusca, qui a été un monstre sanguinaire qui estime qu'il a tué 150 personnes, mais il est pas sûr que le compte soit juste. C'est lui qui a appuyé sur le détonateur, qui a fait sauter l'autoroute, qui a tué le juge Falcone et 3 policiers plus la femme du juge. C'est lui qui a assassiné, étranglé, dissous dans l'acide le petit Giuseppe Di Matteo qui avait 15 ans, après l'avoir séquestré 14 mois. Enfin, je veux dire, on parle quand même de quelqu'un de particulier. Il a fait 25 ans de prison. Enfin, il a été arrêté, il a décidé ensuite de collaborer. Il a fait 25 ans de prison et ensuite il a été libéré. Mais sa libération a déclenché un tollé médiatique en Italie. Beaucoup étaient contre, mais l'Italie va jusqu'au bout de ses principes, c'est-à-dire que il avait, on va dire, purgé sa peine. Il avait fait 25 ans, plus en plus de l'aide qu'il avait fournie à la justice. Ouais. Donc le débat n'est pas simple.
Mais qu'est-ce qui devient aujourd'hui cet homme ?
Ah, je ne sais pas, mais il est protégé quelque part.
Il est toujours protégé, il est toujours en liberté.
Ah, bien sûr. Ah bah bien sûr, oui, oui. Ouais. Et puis il a une nouvelle identité. Enfin, c'est vraiment.
Ah, il a une nouvelle identité, d'accord.
Ah, bien sûr. Tous les repentis ont une nouvelle identité. Ils sont cachés quelque part. Ils ont changé de région. Et généralement, l'État italien les aide à se réinsérer dans la société.
Oui. Une question d'Anne.
Oui. Charlotte, moi, j'en ai beaucoup parlé des biens confisqués, de la réutilisation sociale des biens confisqués, notamment dans ce reportage. Pourquoi c'est important dans la lutte anti-mafia en Italie?
C'est capital parce que ça restaure l'autorité de l'État. C'est-à-dire que quand c'est la mafia qui gouverne un territoire, quand la valeur de référence, on va dire l'autorité de référence au niveau local, c'est l'organisation criminelle, le fait de se réapproprier des biens qui ont appartenu aux mafieux, c'est un message très très fort d'impunité déjà, mais de d'autorité qu'on renvoie à la population. On supplante un modèle négatif par un modèle positif. Alors le modèle des coopératives, il est absolument fabuleux puisque on va produire avec du travail déclaré, légal, on va produire quelque chose de tangible, des produits alimentaires qui ensuite vont être commercialisés sous la marque Les Saveurs de la Légalité et qui sont désormais commercialisés dans toute l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes de supermarchés qui vendent ces produits et c'est capital puisqu'on peut inciter le consommateur à peut-être quelqu'un qui ne se sentait pas forcément concerné par la lutte contre la mafia. Et ben quand il va faire ses courses, se trouver face à un paquet de pâtes produits sur les terres confisquées à la mafia, et ben on va inciter à la consommation critique. Et ça c'est vraiment un tournant dans on va dire dans la diffusion de l'anti-mafia.
Oui, c'est effectivement certainement quelque chose de très important. Aurélien Martigny, en France, qu'est-ce que vous mettriez vous-même en avant, hormis le statut du repenti dont on a parlé et peut-être les biens confisqués? Qu'est-ce que vous auriez comme priorité justement dans cette lutte contre la mafia ?
Il y a plusieurs mesures auxquelles on peut réfléchir. Une des mesures qui est très intéressante en comparaison avec l'Italie, c'est l'arsenal répressif qu'ils ont sur l'association de malfaiteurs mafieuses. Ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'ils sont soumis au même cadre juridique que nous, parce qu'ils sont sous le couvercle, si je puis dire, de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, si cette législation fonctionne chez eux, avec les mêmes contraintes juridiques que les nôtres, elle doit pouvoir fonctionner chez nous et elle a donné des résultats. Alors, de là
à dire... Il faut peut-être dire ce que c'est, non ? Enfin, c'est différent de notre association...
C'est plus large que notre association de malfaiteurs, ça permet de retenir dans les liens de la prévention un nombre plus grand dès lors qu'ils sont membres du groupe criminel. Mais surtout, ce qu'il faut dire aussi derrière, il faut faire attention aux effets d'annonce, c'est que les maxi-procès que l'on connaît en Italie, on est incapable de les tenir en France. Nous n'avons pas les moyens de tenir ces procès. Donc il faut aussi réfléchir aux moyens de la justice. Il y a une autre piste qui peut être celle des cours criminelles spéciales, sans jurés, pour juger de la criminalité organisée. Ça existe déjà dans certaines matières. le terrorisme, par exemple. Et c'est quelque chose d'important quand on connaît dans certaines régions les taux d'acquittement, les pressions qui peuvent avoir lieu sur les jurés. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Et enfin, effectivement, et je rebondis sur ce qu'a dit votre interlocuteur, notre interlocutrice, c'est la saisie des avoirs criminels. Là, on est sur un élément majeur. La mafia agit toujours dans le même objectif, l'appât du gain et l'esprit de lucre. Donc, il faut arriver à frapper au niveau patrimonial. C'est compliqué. Notamment, il faut se poser la question des paradis fiscaux, parce qu'aujourd'hui, la mafia s'internationalise. Il y a des réseaux de blanchiment extrêmement sophistiqués sur lesquels il faut aller.
Anne, justement, à ce propos, des biens confisqués, il y a une évolution en cours en France, législative.
Oui, il y a une loi qui a été votée, qui va rendre la confiscation des biens en France obligatoire. Et ça, c'est un grand changement, Aurélien Martini. Qu'est-ce que vous attendez de ce changement? Ça va être plus systématique, désormais, en France?
Oui, alors, il y a au-delà des aspects strictement juridiques, il y a des aspects pratiques très importants. Puisque, en fait, il y a un delta très fort entre les biens saisis et les biens confisqués. Les biens saisis, c'est ceux qui sont appréhendés avant jugement, et les biens confisqués, c'est ceux qui seront définitivement retirés des mains de ceux qui sont condamnés pour être reversés au trésor public et reversés à l'État. Il y a un delta très important. Donc, il faut, par des mesures concrètes, pratiques. Nous, on a fait des propositions, on a été entendu notamment par les parlementaires sur ce point, pour faire en sorte que les biens saisis soient davantage confisqués. Ça passe par des mesures pratiques simples, au fond, qui est par exemple le traçage des biens entre une procédure d'instruction, par exemple, ou une procédure d'enquête préliminaire, et l'audience correctionnelle. C'est quelque chose de très pratique, mais aujourd'hui, il y a une perte d'information, il y a une difficulté à identifier les biens, même si l'AGRASC, l'agence qui suit ces questions, fait un travail fantastique. Mais il y a encore des difficultés pratiques, notamment, alors je ne rentre pas dans les thèmes, mais c'est des difficultés informatiques, etc., de dotation, de logiciels aussi dédiés, pour qu'on ait vraiment une réponse à cet endroit. Moi, mon expérience et l'expérience de terrain des collègues, c'est de dire que là où il y a le plus de batailles, moi, quand j'étais juge d'instruction, on se battait finalement assez peu dans ces dossiers sur la détention provisoire, beaucoup sur les saisies, parce que c'est l'objet même de l'infraction que de rassembler, que de gagner beaucoup d'argent.
On va se tourner vers vous, Charlotte Moge. Il faut quand même qu'on ne vous oublie pas à Lyon pour parler de la culture de la légalité. Anne me faisait remarquer qu'en Italie, il y a vraiment cette culture de la légalité. Peut-être que Anne peut poser la question et dire un petit mot là-dessus.
Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter les initiatives du réseau Libera dont on a parlé dans le reportage qui permet finalement des initiatives pédagogiques et qui aide les professeurs à sensibiliser les élèves.
Oui, alors dès sa création, Libera, en fait, s'est inscrite dans une tradition qui était celle de l'antimafia citoyenne, qui existait déjà depuis les années 80 en particulier, où les proches de victimes, alors c'était souvent des femmes, hein, c'est-à-dire les filles, les veuves, dès les années 80 à Palerme, ont commencé à intervenir dans les écoles, à aller déconstruire cette culture mafieuse pour parler des victimes et parler de l'action de leurs proches qui avaient été assassinés. Donc tout ça est parti de Palerme dans les années 80, où chaque victime avait sa fondation, on va dire, son centre d'études. Voilà, c'était quand même des gens qui étaient politiquement assez marqués à gauche. Et Libera, après les assassinats des juges Falcone et Borsellino en 92, donc Libera qui est créé en 95, reprend cette dimension, on va dire, pédagogique de ce qui a été appelé la culture de la légalité, c'est-à-dire l'importance de transmettre aux jeunes dans les écoles, à travers des programmes éducatifs anti-mafia, ce qu'on appelle donc la culture de la légalité. Et ce qui est fantastique, c'est que cette culture de la légalité, elle naît de la mémoire des victimes, c'est-à-dire c'est à travers le récit de l'engagement des victimes qu'on tire des grands principes qui vont contrer la culture mafieuse. Et donc, dans le cadre de la journée de la mémoire, par exemple, Libera produit de plus en plus tout un matériel pédagogique qui aide les enseignants pour les pousser aussi à participer à la manifestation, préparer les classes en amont, enfin voilà, discuter de l'égalité et de mémoire à l'école.
Un mot peut-être aussi, Charlotte Moge, du rôle de l'Église dans ce réseau. Alors, on a parlé de Don Pepe Diana dans ce reportage. Libera, il est toujours dirigé par Don Ciotti, qui est un prêtre.
Oui, mais c'est une association qui est laïque.
Mais ce qui, selon moi, a fait le succès de Libera, c'est justement le fait de réunir, on va dire, cette partie de l'Église qui a combattu la mafia, mais qui était quand même fortement minoritaire. Hein, à Palerme, dans les années 80, il y avait des jésuites, il y avait des revues qui étaient fortement mobilisées contre la mafia, il y avait quelques prêtres de quartier, mais la majeure partie, on va dire, des prêtres continuaient à donner les sacrements aux boss mafieux en cavale, à baptiser les enfants, et encore aujourd'hui, on a dans les processions diverses et variées, en Calabre, en Campanie, en Sicile, la statue de la Madone, ceux qui portent la statue qui s'incline devant la maison du boss mafieux. Donc tout ça existe encore. Ce qui a vraiment changé, c'est en 93, quand le pape Jean-Paul II a prononcé l'excommunication des mafieux dans la vallée des temples d'Agrigente. Donc ça a été vraiment un tournant, on va dire, au niveau de la hiérarchie ecclésiastique. Et l'Église s'est mise à sanctionner les prêtres qui était complice des mafieux et qui délivrait les sacrements.
Oui. Je vais me tourner pour la dernière question vers vous, Aurélien Martini. En France, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on manque de moyens, dites-vous, vous, en tant que magistrat, pour lutter contre, finalement, la mafia française, si on l'appelle comme ça.
Oui, absolument. Quand on a créé les juridictions interrégionales spécialisées...
Les GIRS,
absolument, qui ont été évoquées dans le reportage. C'était une belle invention qui était destinée à permettre à certains magistrats qui étaient désignés de traiter moins de dossiers pour les traiter mieux et aller en profondeur. Aujourd'hui, ces GIRS, elles sont surchargées. Et d'ailleurs, il y a eu un appel dans le monde des GIRS que nous avons soutenu.
Oui, une tribune, il n'y a pas longtemps.
Une tribune, absolument, pour dire nous ne pouvons plus faire face. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut repenser la lutte contre la criminalité organisée, parce que c'est un enjeu démocratique majeur, encore une fois, parce qu'une fois que ça a pénétré nos sociétés de telle façon que ça influe sur le cours des élections, ça influe sur l'économie légale, ça corrompt les fonctionnaires, on entre dans un monde dont nous ne voulons pas. Et... au fond, ce qui a été dit est très intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre, il faut renforcer les mesures de la justice, mais il y a du symbole derrière tout ça. Et la justice seule ne peut pas tout. L'éducation, le fait de ne plus ériger en héros des gens qui sont des tueurs de sang-froid, me paraît être une chose importante. Et l'éducation dans les écoles, ce qui vient d'être dit, est quelque chose de fondamental.
Mais on a l'équivalent en France d'associations qui vont dans les écoles ou qui iraient mémoire des victimes de la mafia?
Pas à ma connaissance, mais c'est vrai que c'est une piste intéressante. Et en tout cas, en France, la question c'est tournée vers la centralisation. Aujourd'hui, on parle et on avance la piste d'un parquet qu'on n'appelle pas anti-mafia encore, mais qui serait un parquet national anti-criminalité organisée. C'est une piste. En tous les cas, il faut se doter de moyens. À la fois en raisonnement juridique et en moyens humains, en moyens techniques, pour lutter contre la mafia, parce que c'est vraiment un enjeu pour notre démocratie.
Charlotte Moge, une dernière question rapide, peut-être. L'arsenal anti-mafia, il est solide, mais il est régulièrement attaqué, notamment par la classe politique italienne. C'est le cas actuellement avec la première ministre italienne.
Oui, elle pas plus que d'autres, mais effectivement, on sent qu'il faut toujours en tout cas être très vigilant pour éviter que passent au Parlement certaines mesures qui seraient catastrophiques, comme ce que proposait Giorgia Meloni, c'est-à-dire d'autoriser les paiements en cash jusqu'à 5 000 euros. Vous imaginez bien que dans un pays gangréné par la criminalité mafieuse, ce serait absolument catastrophique. Mais Silvio Berlusconi a fait une loi terrible sur les collaborateurs de justice qui les oblige maintenant à dire tout ce qu'ils savent en 6 mois. Et depuis, ça fait donc plusieurs années, je ne sais plus exactement, mais 10 ou 15 ans que cette loi est passée, largement même, peut-être 20 ans, et cette loi est toujours actuelle, c'est-à-dire qu'un mafieux qui collabore, à partir du jour où il commence, il a 6 mois
et ensuite,
pour
il se
dire tout ce qu'il sait, et les juges doivent entre-temps vérifier aussi. Donc le travail d'enquête est absolument titanesque à réaliser dans un temps qui est très très court, puisque au-delà de 6 mois, tout cela est invalidé.
C'est ça, et qui profite donc du coup aux mafieux en quelque sorte, parce que le temps est trop court.
C'est tout le problème.
Bien entendu. Bon, on sent quand même qu'il y a encore des progrès à faire sans doute, enfin en France certainement, en Italie aussi, dans tous les pays d'Europe et du monde, car la pieuvre bien nommée étend ses tentacules circule évidemment pas seulement chez nous. Merci beaucoup Anne pour votre reportage. L'engagement citoyen contre la criminalité organisée des Français dans les pas de l'antimafia italienne. Un reportage réalisé par Sam Basquiast. Et à la technique ce soir nous avions Anthony Thomasson. Je remercie bien sûr Charlotte Moge, donc en direct de l'Université de Lyon. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en études italiennes et ici à Paris, Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats.